franceinter.fr.
Bonjour Raoul Peck.
Bonjour.
Faut-il vous présenter? Oui, sans doute. Vous êtes né en Haïti il y a 64 ans. Vous y avez été ministre de la Culture pendant 2 ans. Comme cinéaste, vous avez alterné fiction et documentaire. Villemain, l'affaire Villemain, Lumumba, le Rwanda, la promotion Voltaire de l'ENA. Vous présidez la FEMIS, la grande école des métiers de l'image et du son. Et votre dernier film, I Am Not Your Negro, je ne suis pas votre nègre, encore qu'on pourra s'interroger sur la traduction, a été nommé en janvier dernier pour l'Oscar du meilleur documentaire. Alors comment dire, c'est une histoire de l'Amérique à travers sa question raciale, une histoire des Noirs en Amérique ou de l'Amérique dominée par les Blancs, et cela avec les mots du grand écrivain James Baldwin.
Oui, c'est une histoire qui est totalement urgente aujourd'hui aussi, puisque Baldwin a essayé de re-raconter l'Amérique qu'il a connue. Il a été l'un des acteurs principaux du mouvement des droits civils aux États-Unis, et il voulait raconter cette histoire à travers l'assassinat de 3 de ses amis, Medgar Evers, Martin Luther King et Malcolm X.
Tous les 3 assassinés à moins de 40 ans.
De 40 ans. Ce qui dit beaucoup sur ce processus d'émancipation qui a été cassé, puisqu'on a tué la plupart de ses dirigeants, y compris une bonne partie des dirigeants des Black Panthers et des autres organisations radicales. Mais Baldwin va plus loin que ça. Ce n'est pas simplement une histoire de racisme, c'est une histoire même de civilisation, c'est une histoire d'inégalité, puisque les inégalités aujourd'hui, c'est pourquoi la référence d'aujourd'hui, Baldwin parlait aussi pour les électeurs de Donald Trump. Il s'agissait des inégalités sociales, économiques, dans le pays le plus riche du monde, et la discrimination, le racisme n'était que l'un des visages de ces inégalités.
On va parler de votre film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il a été diffusé sur Arte avant d'être projeté en salle, dans les salles de cinéma.
Oui, parce que c'est un film de cinéma.
En France, le 10 mai. Donc vous avez pris les mots de Baldwin sur un texte qui est resté inachevé à sa mort, avec la voix de Samuel Jackson dans la version originale, celle de Joey Starr pour la version française. Avec une documentation époustouflante, des images incroyables, souvent tirées d'archives de la télévision américaine des années 50 et 60 qui témoignent du racisme ambiant, des discriminations de l'époque. Ce sont des documents peu connus, même aux États-Unis, Raoul Peck.
Beaucoup de documents sont peu connus, ou alors les gens se sont habitués à ces documents et ont oublié comment les voir. Nous avons par exemple coloré certains de ces documents et brusquement ils ont une nouvelle vie. Parce que les gens, vous savez, chaque année il y a Black History Month, le mois de l'histoire noire. Donc les écoles par exemple s'habituent à voir ces images. Et en fait on a cessé de les voir avec leur vrai contenu. Donc on a recherché le plus possible des images qui étaient différentes, y compris d'ailleurs dans les archives françaises, suédoises et ailleurs. Donc on a fait un sacré travail. Notre archiviste, Marie-Hélène Barberis, qui est l'une des meilleures en France, je pense, nous a aidés en ça. Et l'idée, puisque Baldwin parle des images et du poids des images et de ce que les images transportent comme idéologie, donc on utilise beaucoup aussi les clips du cinéma, du grand cinéma américain, avec lequel nous avons tous grandi.
C'est une histoire culturelle aussi, on va y revenir. Le film s'ouvre d'ailleurs par l'image de Baldwin sur un plateau de la télévision américaine.
Dick Cavett Show, oui.
Et il y a un présentateur qui lui demande à Baldwin, qui a l'air décontenancé, mais de quoi vous plaignez-vous? Vous voyez bien que ça progresse. Il y a de plus en plus de Noirs qui sont élus, qui apparaissent, et Baldwin semble ne pas savoir quoi répondre.
Oui, absolument. Bon, c'est une question qu'on entend aujourd'hui encore. Mais malheureusement, lorsqu'on prend tous les critères de changement, toutes les statistiques, les chiffres, on se rend compte que ce soit en termes de logement, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes du nombre de Noirs en prison par rapport au pourcentage dans la population, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de changements fondamentaux. Certes, il y a une nouvelle classe bourgeoise noire, il y a des chanteurs, des rappeurs, des gens qui ont fait fortune et qui sont acceptés dans la société américaine, mais ça, il n'y a pas eu de vrai partage de pouvoir, parce que c'est là la vraie question. Et économiquement, ça a tout son poids.
Parlez-nous de James Baldwin. donc grand écrivain américain qui s'est installé en France et puis qui est revenu aux États-Unis donc pour participer, vous l'avez dit, à ce grand mouvement à la fin des années 50 pour payer sa dette, comme il l'a dit lui-même. Vous avez réussi à convaincre sa famille, Raoul Peck, alors que ses ayants droit ont toujours refusé les sollicitations dans le passé pour adapter son œuvre.
Oui, ils sont très protecteurs de ces droits-là et quelque part, ils m'ont adopté. Ils connaissaient mes films, notamment le film que j'ai fait sur Lumumba, le premier ministre congolais assassiné. Et ils m'ont fait confiance. Et ce qui est très rare dans le monde du cinéma, qu'on vous confie toute une œuvre. En général, on prend une option ou des droits sur un livre ou un essai. Là, j'ai eu vraiment accès à tout, y compris ce qui n'avait jamais été publié, les lettres personnelles. Et ça m'a donné, bien sûr, une énorme responsabilité de faire un film vraiment différent, libre, et dans son contenu et dans sa forme.
Je vous propose d'écouter la voix de James Baldwin, une interview en français. Je pense que c'est à la fin de sa vie, on n'a pas la date exacte, mais il raconte dans cette archive pourquoi il est arrivé en France et à Paris.
Non, j'ai quitté les États-Unis en 48. Je n'avais pas un sou d'ailleurs. J'ai quitté New York par Paris en disant à moi-même que même si je trouve la mort en France, même si je me trouve dans la rue, ça ne sera pas pire, ça ne peut pas être pire que les choses qui vont m'arriver fatalement si je reste dans mon pays. C'est tellement difficile à expliquer, quelqu'un, comment dirais-je, c'est des petites choses, c'est pas la grande chose, c'est pas le lynchage, c'est pas le fait d'être brûlé, c'est pas le pistolet, c'est 24 heures par jour. C'est 24 heures par jour pour faire les choses les plus simples. Pour avoir une tasse de café, d'entrer dans un restaurant, les choses normales. C'est ça qui tape sur les nerfs, finalement.
James Baldwin, ce document étonnant. Alors, évidemment, avec la dimension de cette autre discrimination dont il se sentait victime, c'est que Baldwin était homosexuel.
Oui, il y a la dimension homophobique aussi, mais ce qu'il dit là dans cet extrait, c'est vrai que, et aujourd'hui encore, je pense que bien sûr les homosexuels le vivent, les noirs, les arabes le vivent, les femmes aussi le vivent, c'est que vous pouvez pas changer qui vous êtes toutes les minutes de votre journée. Et c'est pas justement ce racisme violent qu'on entend parfois à la radio ou qu'on voit à la télévision ou dans la rue. Ce qui est dur, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, dès le moment où vous vous levez le matin, quand on est une femme, on sait qu'on va aller dans une réunion, il va y avoir plein de messieurs, en général blancs, avec une cravate. Et là, vous ressentez votre condition de femme. Donc, c'est pas quelque chose, on vous dit, ah, mais vous êtes tout le temps, vous n'êtes pas fatigué de parler de ça tout le temps, mais non, puisque c'est votre quotidien. Et même si on est quelqu'un comme moi privilégié, puisque je peux me défendre, je peux parler, je suis dans un milieu plutôt aisé dans le monde du cinéma, mais malgré tout ça, il y a une réalité de la vie de tous les jours que vous ne pouvez, à laquelle vous ne pouvez pas échapper.
Il faut entendre ces paroles en plus avec... en se projetant sur le visage lumineux de Baldwin, c'est difficile à décrire, c'est une sorte de
c'est quelqu'un entre, qui a plein de charisme.
Un énorme charisme, entre, on va dire, entre Henri Salvador et Sammy Davis Jr. un peu, il y a
je pense que Baldwin était beaucoup plus que ça, même si je respecte ces deux messieurs.
Je parle des visages et de la forme de visage, mais en tout cas, il dégage quelque chose d'assez extraordinaire dans les images d'archives que l'on voit. Je le disais, votre film, Raoul Peck, c'est un portrait culturel de l'Amérique noire. Il y a beaucoup d'extraits de films et puis de chansons. On y entend, par exemple, ceci. This little song that I'm singing about, people you know is true. If you black and gotta work for a living now, this is what they would say to you. This is if you was white, you'd be all right. If you was brown, stick around, but as you black, oh brother, get back, get back, get back. Voilà, c'est Big Bill Bronzy qui est un grand songwriter américain, une grande voix du blues. Si tu es blanc, ça va, on a compris. Si tu es noir,
tu attends le bout de la queue.
Voilà. La question noire à Raoul Peck, elle est toujours, vous le disiez tout à l'heure, elle est toujours d'actualité aux États-Unis après 8 ans de présidence Obama.
Oui, quand on posait la question à Baldwin il y a 40 ans sur le changement que ça ferait d'avoir un président noir, sa réponse était claire. Il disait, la vraie question, c'est pas d'avoir un président noir, la vraie question, c'est de quel pays sera-t-il le président ? Et on s'en rend compte, après les 8 années, en effet, c'est le même pays qui va élire Donald Trump. Donc, on a tendance, et un président seul ne fait pas un pays. Et comme on est en pleine élection aujourd'hui ici, on peut voir l'absurdité de ce combat entre deux candidats que je pense qu'une majorité des Français a problème avec. Et ça ne va pas résoudre le problème. L'un des candidats, s'il est élu, va causer beaucoup de dommages. L'autre, à la limite, on peut dire, on peut se battre contre lui. Bon, je trahis un peu qui est derrière ces choix, mais en même temps, ça va continuer. Le mandat est de 5 ans, mais la France va continuer. Ce qu'il faut faire, c'est penser tout ce qui va venir dans ces 10-20 prochaines années, parce que c'est ça qui est le plus important. Et on n'a plus le temps d'en discuter, parce qu'on est tous fixés à cette réponse d'un individu qui va, soi-disant, trouver les bonnes solutions. Non, il faut une majorité de Français et de gens qui vivent en France pour trouver les bonnes solutions, parce qu'il faudra s'asseoir autour d'une table et prendre des décisions qui sont parfois dures, et malheureusement les politiques ne peuvent pas poser la question comme ça et ne peuvent pas poser le problème de cette manière.
On va se projeter sur l'avenir, cet avenir, et sur la France, puisque vous avez fait des projections et ici en France, Raoul Peck, dans les banlieues. Vous nous direz tout à l'heure comment le film a été accueilli et le discours que vous avez pu tenir. I am not your Negro, c'est votre documentaire. Alors, Negro, comment on doit le traduire ? Parce qu'il y a, terme, il y a nigger.
Nigger est beaucoup plus insultant, plus péjoratif. Nègre, il y a une époque, les écrivains noirs eux-mêmes parlaient, Césaire a parlé de nègre. C'est toujours dans quel contexte on prononce ce mot, bien entendu très chargé et dépendant de qui ça vient et dans quelle, avec quelle musique,
quelle intention
ce mot est prononcé. Mais Negro, aussi aux États-Unis, on voit dans ses grandes interviews avec Dick Cavett, à une heure de haute écoute, Baldwin lui-même utilise le mot Negro. Et on disait à l'époque aussi Negro Spiritual, pour parler.
Mais on ne l'utilise plus aujourd'hui.
On l'utilise plus,
beaucoup moins.
Il est démodé. Mais il a quand même une connotation historique importante et j'ai voulu reprendre cette connotation historique que Baldwin également utilise.